un peu plus vaste encore que la dernière fois. La dernière fois, on a parlé un peu du fait que nous sommes des esclaves. Comme nous avons vu dans le Nouveau Testament, chaque auteur des Épîtres se nomme esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Et ce sujet qui est devant nous maintenant, c'est le sujet que nous sommes des disciples, est intimement lié à ce premier sujet. Et on va voir même un verset où les deux, ou quelques versets où les deux sont mentionnés ensemble. Il y a à peu près 280 mentions dans le Nouveau Testament du fait que nous sommes des disciples. Donc c'est un sujet très vaste, même si on voit seulement les expressions qui se réfèrent à ce sujet. Par contre, j'aurais à cœur de commencer, comme la dernière fois, dans l'Ancien Testament, et terminer aussi dans l'Ancien Testament, qui nous donne quelques détails pratiques, et entre les deux, d'étudier un peu quelques points caractéristiques d'un disciple dans les évangiles, dans les actes. Donc, tournons maintenant vers le livre d'Ésaïe, de nouveau, où nous avons l'exemple du Seigneur Jésus. La dernière fois, nous avons vu que le Seigneur Jésus était le parfait esclave. Et nous voyons dans ce même chapitre qu'il était aussi le parfait disciple. Donc, cela montre déjà que les deux sujets sont intimement liés. Ésaïe 50, où nous voyons au début du chapitre la gloire du Seigneur Jésus comme le Créateur, et puis dans le verset 4, nous le voyons comme disciple, comme homme humble et débonnaire. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des savants, ou on pourrait traduire des disciples, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Le dernier mot dans ce verset, enseigne, c'est la même racine que le mot traduit par savant. Dans les deux cas, cela a à faire avec des disciples. Donc, on voit ici le Seigneur Jésus comme un disciple. Et puis, on a vu la dernière fois, en rapport avec l'esclave, que l'oreille est très importante. Aussi, pour être instruit comme disciple, il faut savoir écouter. Écouter la parole de Dieu, mais pour nous maintenant aussi, comme on va voir dans le Nouveau Testament, écouter la voix du Seigneur Jésus lui-même, qui était le parfait disciple et qui nous instruit maintenant. Dans le Nouveau Testament, le verset qu'on a lu ce matin, dans Hébreux 5, nous voyons le Seigneur Jésus aussi comme disciple. Peut-être on va lire ça plus tard. J'aurai encore deux versets dans Ésaïe qui nous montrent quelques leçons en rapport avec le fait que nous sommes des disciples et que nous sommes enseignés. Lui était donc enseigné, comme nous le voyons dans ce verset, chaque matin. Et dans chapitre 54, nous voyons le plan de Dieu avec le peuple d'Israël pour enseigner tout son peuple. Et on peut dire maintenant, on va lire d'abord ce verset 13, Ésaïe 54, verset 13. Et tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Donc, une des choses qu'on va remarquer en rapport avec le fait que nous sommes des disciples, un disciple est enseigné par Dieu lui-même, ou bien, dans le Nouveau Testament, on va voir aussi par le Seigneur Jésus. Ce verset est très important. Le Seigneur Jésus cite ce verset dans Jean 6, où il parle avec les pharisiens, et il cite ce verset, et dans ce même chapitre, nous voyons que le Père enseigne. Vous voyez, ici c'est Dieu, ou l'Éternel. Dans le millénium, dans le règne millénaire, l'Éternel va enseigner tous tes fils, donc tous les fils de Sion, d'Israël. C'est sur la base de la grâce souveraine. Ça, c'est important à comprendre. Que ceux qui sont enseignés, c'est parce qu'ils sont placés sur cette base de la grâce souveraine. Comme homme perdu, Dieu ne peut pas nous enseigner. Il faut un changement intérieur pour ça. Et on voit ici que la grâce souveraine de Dieu est intervenu et c'est lui qui va enseigner. Et juste, le Seigneur applique ce verset dans le Nouveau Testament sur nous, sur les, d'abord sur ceux qui écoutent sa voix, et on peut l'appliquer aussi sur nous. C'est le Père qui enseigne comment il attire les gens vers le Seigneur Jésus. Il les enseigne en les attirant vers le Seigneur. Et plus tard, on voit aussi que l'Esprit enseigne. L'Esprit, dans quelques passages, on lit que l'Esprit enseigne. Et un verset qu'on veut étudier encore plus tard, c'est dans Éphésiens 4, où nous voyons le Seigneur Jésus dans la gloire comme celui qui enseigne. Donc on voit Dieu qui enseigne ici, qui a une relation avec le peuple d'Israël, mais dans le Nouveau Testament, ce verset est appliqué aux croyants d'aujourd'hui, où on voit que le Père les enseigne pour les attirer vers le Seigneur Jésus, où l'Esprit enseigne maintenant, l'Esprit habite dans les croyants, il nous enseigne. Le Seigneur Jésus nous a enseigné dans sa vie ici-bas, et le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, nous enseigne comme étant dans la gloire. C'est Éphésiens 4, l'homme glorifié qui nous enseigne. Donc, c'est juste pour donner une impression de l'importance du sujet que Dieu lui-même nous enseigne. Il y a une grande différence, par contre, avec l'Ancien Testament. Juste un verset pour montrer ça, aussi dans Ésaïe, Ésaïe 8. Dans Ésaïe 8, nous voyons dans le verset 16, Ésaïe 8, verset 16. « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » Et puis, dans le verset 20, « À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas d'aurore pour lui. » Donc ici, on voit un peuple dans l'apostasie. Tout le peuple a tourné le dos vers Dieu. Mais on voit au milieu de ce peuple un reste fidèle. Donc on voit ici que ce reste fidèle, qui sont appelés mes disciples, parle du reste fidèle futur. Mais un principe important pour nous à comprendre, c'est que les leçons morales s'appliquent à nous aujourd'hui. Le peuple de Dieu, le peuple professant, on peut dire, de Dieu, est aussi tombé presque dans l'apostasie. On va voir ça dans 2 Thessaloniciens 2 plus tard, vraiment l'apostasie, mais on voit la même tendance vers l'apostasie. Et puis, au milieu de ce peuple, il y a des disciples. Et je voulais mentionner un point important. Il y a beaucoup de croyants partout, dans toutes sortes d'églises. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des disciples. Et même, pour nous-mêmes, le fait que nous croyons ne veut pas dire automatiquement que nous sommes des disciples. Je voulais juste mentionner ce que j'ai lu une fois. Quelqu'un, un auteur dans les affaires politiques, il avait mentionné une fois, il y a deux sortes de gens qui comptent dans le monde. Ce sont les chrétiens dévoués et ce sont les communistes dévoués. C'est remarquable. C'est un incrédule qui a dit ça, qui n'était pas né de nouveau, mais il a constaté ça. Il avait vu que ces gens qui étaient vraiment dévoués, eux comptent. Donc c'est pour nous, pour ainsi dire, un défi d'être des disciples. On a vu la dernière fois, d'abord il faut être un esclave, il faut accepter l'autorité de Dieu, l'autorité du Seigneur Jésus. Il faut nous soumettre absolument à cette autorité. Par amour, on avait vu. Mais maintenant, il y a une deuxième chose. Le Seigneur veut former quelque chose en nous. J'espère montrer ça dans le Nouveau Testament. Mais le point qu'on voit ici, donc, un disciple est quelqu'un qui est fidèle envers le Maître lorsque tout le peuple professant est dévié, est infidèle. Ça, c'est donc un point important à regarder, à considérer et à retenir, qu'un disciple est là, qui est instruit dans les pensées de Dieu, il est fidèle là où le peuple de Dieu est infidèle. Mais maintenant, la différence avec le Nouveau Testament. On voit ici que c'est une question de qu'il était instruit dans la loi, instruit dans le témoignage, l'Ancien Testament. Mais pour nous, ça va plus loin. Nous ne sommes pas instruits dans une doctrine seulement. Nous sommes instruits en rapport avec une personne. On peut dire le christianisme, c'est une personne, c'est Christ. Puis ça, c'est donc la différence avec l'Ancien Testament et les disciples qu'on voit ici. Ils ne connaissaient pas encore le Seigneur Jésus, mais ils connaissaient la parole de Dieu. Il était fidèle à la parole de Dieu. Et c'est ça, dans cette façon-là, que ces versets-là sont aussi un enseignement pour nous. Pour maintenant tourner vers le Nouveau Testament, j'aurais à cœur juste parcourir brièvement quelques passages dans le Nouveau Testament qui nous montrent comment un disciple est formé aujourd'hui. On peut penser aux disciples qui étaient formés dans le temps où le Seigneur Jésus était sur la terre. Mais le Seigneur est maintenant dans la gloire. Donc, on va voir deux choses. Comment le Seigneur Jésus a enseigné lorsqu'il était ici-bas, et cela continue d'un certain sens, parce que tout cela est encore disponible pour nous. Mais il y a un autre élément ajouté que le Seigneur enseigne même dans la gloire pour nous enseigner comment être un disciple. D'abord, dans Matthieu 5, on va feuilleter pas mal dans la parole aujourd'hui, mais la prochaine fois, Dieu voulant, on aura moins de passages à couvrir. Mais c'est juste pour avoir quelques leçons. Dans Matthieu 5, verset 1, « Or, voyant les foules, il monta sur la montagne. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. » Donc, il y a beaucoup de monde, les foules, on peut dire tous les croyants. Il monta sur la montagne, ça parle de la place spéciale que le Seigneur Jésus a. On trouve la montagne au moins 7 fois dans l'Évangile selon Matthieu. Et chaque fois, c'est en rapport avec son autorité, parce qu'il est le roi dans cet évangile. Et lorsqu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Vous voyez, il y avait une grande foule qui avait cru, au moins suivi le Seigneur Jésus extérieurement, mais au milieu d'eux, il y était donc un groupe qui est appelé ses disciples. Et c'est eux qui s'approchèrent de lui. Est-ce qu'ils s'approchèrent d'une doctrine? Non. Ils s'approchèrent de lui. Et nous voyons dans ce sermon que le Seigneur donne ici les principes du royaume des cieux. On peut dire les lois de son royaume. Le Seigneur parle ici comme roi. Il présente à ses disciples, qui sont maintenant des sujets dans son royaume, il présente ses lois. Mais vous voyez ce qui est très beau de voir maintenant, que dans tous ces détails que le Seigneur Jésus donne, il parle avec autorité, mais on voit que lui était lui-même l'exemple de tout ce qu'il donne. Ce n'est pas seulement un instructeur qui donne des détails pour partager avec nous une certaine connaissance intellectuelle. On voit que tout cela était pratiqué par le Seigneur Jésus lui-même. Je peux juste mentionner ça, on ne peut pas maintenant entrer dans les détails, mais on voit que c'est lui qui enseigne, verset 2, mais en même temps, il donne l'exemple parfait de tout ce qu'il a enseigné. Donc, les disciples sont enseignés maintenant, pas seulement dans une doctrine, mais ils suivent une personne. Ils sont instruits dans tout ce qu'il révèle, et tout ce qu'il révèle est vu en lui d'une façon vivante. C'est la première leçon que nous avons à faire. Ce n'est pas seulement une doctrine, mais c'est une personne qui est présentée. Et cette personne nous attire vers lui, vraiment. Maintenant, la deuxième leçon, dans le chapitre 10. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai un peu médité sur ce verset, la première fois que j'étais vraiment frappé de voir ce que le Seigneur Jésus dit dans ce verset 24. Qu'est-ce qu'il dit d'un disciple? C'est très clair, verset 24, le disciple n'est pas au-dessus du maître. On n'a pas de problème avec ça. Le maître, par ailleurs, veut dire celui qui enseigne. C'est donc celui qui a l'autorité, mais pas seulement, c'est celui qui enseigne aussi, comme nous avons vu dans le chapitre 5. Et en lui, on voit vraiment tout ce qu'il enseigne, comme on va voir plus tard. Maintenant, verset 25, il suffit au disciple qu'il soit comme son maître. Donc maintenant, nous voyons le Seigneur Jésus lui-même comme le standard, comme le critère, ou on peut dire comme la mesure, vraiment. Et ça, c'est important à comprendre, parce que on voit ici un standard parfait qui est présenté devant nous. Est-ce que nous sommes comme le Seigneur? Non. Donc, on doit encore apprendre quelque chose. Et on peut dire, on ne sera jamais parfait à cette école. Cette école terminera le moment où le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Mais nous sommes à l'école. Et cet enseignement continue. Mais ce qui est très beau, et on va voir ça plus loin aussi, que c'est un maître béni qui nous enseigne. Il nous attire vraiment. C'est pas comme sous la loi. La loi a exigé beaucoup, mais les gens n'étaient pas capables de faire. Mais le Seigneur nous enseigne d'une façon pour nous attirer, afin que nous fassions, et pas seulement fassions ce qu'il veut, afin que nous soyons comme il est. Donc ça, c'est vraiment un standard très élevé. Mais c'est quand même ce qui est caractéristique pour le christianisme, parce que dans le christianisme, une personne est présentée. Et puis, Dieu veut maintenant voir tous ces attraits en nous, les disciples du Seigneur. Quelqu'un a dit une fois, le diable était bien content d'être de s'être débarrassé du Seigneur Jésus après sa mort. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a renvoyé dans ce monde toute une compagnie parce que ce sont les disciples du Seigneur Jésus qui sont ici maintenant. Vous et moi, nous sommes des disciples. Au moins, c'est le désir du Seigneur que nous soyons des disciples pour montrer ce que le Maître est. Le Maître est rejeté, on voit ça dans ce chapitre-là. Il était, peut-être on tourne maintenant vers chapitre 11. Il était rejeté ici-bas, mais en même temps, il a cherché la gloire de Dieu. Et c'est ça qui nous frappe dans Matthieu 11, comment il a cherché vraiment ce qui est pour la gloire de Dieu. On ne peut pas lire ces versets-là maintenant, mais dans le verset 25 jusqu'à 27, on voit comment le Seigneur Jésus a vraiment cherché la gloire de Dieu. Et maintenant, les versets qui nous donnent beaucoup à méditer, c'est le verset 28 et 29. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Peut-être vous direz, mais ici on ne trouve pas le mot disciple, mais ce qu'on trouve, par exemple, c'est apprenez de moi. Et c'est le verbe dans le grec qui a exactement la même racine que le mot disciple. On peut devenir donc un disciple. Comment? On peut devenir un disciple, on doit d'abord venir à lui. Ça, c'est clair. Le verset 28, c'est l'évangile. La bonne nouvelle à ceux qui sont chargés, ceux qui sont fatigués, et aussi pour nous-mêmes, si nous sommes découragés, venir à lui. Et moi, je vous donnerai du repos. C'est le premier repos. C'est la paix avec Dieu. Mais dans le verset 29, nous voyons, prenez mon joug. Ça, c'est de nouveau cette soumission qu'on a vue comme esclave, mais pas seulement cela. Vous voyez, c'est vraiment un verset très béni à réfléchir. C'est le Seigneur lui-même qui se place à côté de nous. Parce que s'il parle d'un joug, c'est lui qui porte ce joug ensemble avec nous. Il parle de mon joug. Il y avait toujours deux bêtes sous un joug. Et ici, dans ce langage figuratif, on voit donc la même pensée. Sous ce joug sont maintenant deux personnes. Et ça, c'est vraiment une caractéristique pour cet évangile. Le Seigneur est venu ici-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il était son nom? Emmanuel. Dieu avec nous. Ça, c'est la pensée ici. Dieu avec nous. Si vous êtes un disciple, Dieu est avec vous. Et on le voit à la fin de l'évangile. Moi, je suis avec vous. Ça, c'est la pensée vraiment dans l'évangile selon Matthieu. Une personne divine avec nous, et maintenant le Seigneur Jésus comme homme ressuscité avec nous, sous le même joug, si nous voulons prendre ça. Ça, c'est le point. Prenez mon joug. Il ne l'impose pas. Il pourrait le faire. Il a l'autorité. Mais il veut avoir une réponse de nos cœurs si nous voulons prendre ce joug. Donc, on voit ici cette soumission, mais aussi que le Seigneur Jésus veut être notre compagnon, pour ainsi dire. Il veut se placer à côté de nous. Donc, ça, c'est la façon à apprendre. Le Seigneur ne nous enseigne pas de loin. Il vient tout près de chez nous pour nous apprendre. Donc, il se place à côté de moi. Je prends ce joug, cette soumission, cette obéissance. Il se place à côté de nous. Il veut s'identifier avec nous. Il l'a fait dans le chapitre 3 déjà, avec le reste fidèle. On le voit ici de nouveau. Et d'une telle façon, il peut dire, apprenez de moi. Donc, pour devenir un disciple, il faut suivre ces instructions de ce verset. Et puis, il nous encourage. C'est pas un maître dur, il dit, car je suis débonnaire. C'est pas un homme fier. Il a toute autorité, mais il est débonnaire et humble de cœur. Quel parfait exemple, mais aussi quel encouragement pour nous. Il n'est pas comme les gens dans le monde qui règnent avec dureté ou qui sont fiers. Non. Ou comme Saül, le roi, dans l'Ancien Testament, comme on a vu dans 1 Samuel. Non. Il nous attire pour être avec lui, tout simplement. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Un disciple a besoin du repos pratique dans les circonstances de la vie. C'est ça qu'il nous donne ici. Vous trouverez le repos de vos âmes. Donc, on va voir encore quelques versets qui nous donnent beaucoup à réfléchir. Dans le chapitre 12, on voit que ça va ensemble avec la volonté de Dieu. Là aussi, le Seigneur Jésus s'identifie avec ses disciples, comme dans Ésaïe, on a vu un peuple qui a abandonné Dieu, mais il y avait des disciples. Et dans Matthieu 12, verset 49, on voit ses disciples qui étaient dans la maison avec lui. Il dit dans verset 50, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » On voit ici comment le Seigneur Jésus s'identifie avec ceux qui étaient fidèles dans la maison avec lui. La masse du peuple l'avait rejeté, mais eux qui étaient baptisés, dans Matthieu 3, faisaient la volonté de Dieu. Et avec eux, le Seigneur Jésus peut s'identifier. Et il peut leur donner, dans le chapitre 13, toutes sortes d'instructions. Et on voit maintenant deux choses. Un disciple est celui qui suit le Seigneur. On a vu, il est avec nous-mêmes, sous le même joug. Mais c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. On va voir ça plus tard aussi. Et c'est quelqu'un qui est instruit. Et c'est ça qu'on trouve dans le chapitre 13. Le roi est rejeté, mais il nous enseigne dans ce chapitre quoi faire lorsque le roi est rejeté. Et à la fin de ce chapitre, on trouve aussi une expression, une très belle expression, verset 52. Et il leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. Donc dans ce verset-là, nous voyons la possibilité pour vous et moi d'être instruits dans le royaume des cieux. On l'a vu dans le chapitre 5 déjà, mais le Seigneur doit ajouter d'autres instructions à cause du fait qu'il est rejeté. Et c'est ça qu'on trouve ici dans le verset 52. Et encore deux versets dans Matthieu, chapitre 18. On pourrait voir dans presque chaque chapitre quelques enseignements pour des disciples. Mais une leçon très frappante est vraiment dans le chapitre 18, où nous voyons comment il faut nous changer. Verset 3. En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Dans ce chapitre, on voit beaucoup de leçons pour des disciples. Comment s'humilier? Comment se juger soi-même? Comment pardonner aux autres? Ce sont toutes des leçons que des disciples doivent apprendre. Et à la fin de Matthieu 28, nous voyons que le Seigneur Jésus est avec ses disciples après sa résurrection. Et puis, on voit là ce qui est caractéristique pour Matthieu, qu'il a toute autorité. Il est le vrai roi. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant dans le verset 19? Vous êtes devenus des disciples. Maintenant, vous allez faire d'autres disciples. C'est ça la pensée. Verset 19. Allez donc et faites disciples toutes les nations. Je suis d'accord. Ça s'applique au futur. Mais moralement, ça s'applique à nous aussi. Si nous sommes devenus des disciples, le Seigneur dit, OK, Allez-y maintenant. Faire va faire aussi des disciples. Et puis, en faisant cela, il est avec nous, parce qu'il dit à la fin, « Moi, je suis avec vous, tous les jours. » Donc, on a vu comment le Seigneur Jésus veut se placer à côté de ses disciples. C'est le roi, donc, qui est révélé dans cet évangile. C'est le roi qui enseigne ses sujets qui sont sous son règne, sous son autorité. Mais dans Marc, nous voyons le Seigneur Jésus comme le prophète qui est venu pour révéler la pensée de Dieu. Et juste deux ou trois versets dans Marc, dans chapitre 3, et c'est aussi de nouveau quelque chose que nous pouvons apprendre et réaliser dans notre vie. Et c'est ici l'appel, verset 13, l'appel souverain. Mais pourquoi est-ce qu'il nous appelle? Verset 13, « Il monte sur une montagne et il appelle ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. » Verset 14, « Et il en établit 12 pour être avec lui. » Ça, c'est la première caractéristique. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous a appelés? Pour que nous soyons avec lui. C'est à son école qu'on est formé. Il faut vraiment être avec lui, comme on a vu dans Matthieu, pour apprendre de lui. Sous le même joug, lui à côté de nous, lui avec nous, mais pour nous aussi, il faut que nous soyons avec lui, comme on le voit ici. Et puis plus tard, ils recevront cette tâche de prêcher, etc. Puis, on voit vraiment ici que nous sommes placés sur une nouvelle base. On voit que le Seigneur donne un autre nom à Simon. Il donne le nom de Pierre. C'est la même chose qu'il a fait avec nous. Il nous a changé complètement. Il nous a placés sur une nouvelle base. Il nous a ajoutés dans la maison de Dieu. Pierre, une pierre dans la maison de Dieu. Et puis, il nous donne aussi la puissance pour souffrir. On a parlé un peu de ça ce matin. Et on voit ici que ces deux fils de Zébédée étaient nommés Boanerges. Ça veut dire fils de tonnerre. Mais ça parle de leur capacité maintenant de pouvoir souffrir. Pouvoir souffrir et en même temps manifester la puissance de Dieu en eux. Ça, c'est la capacité dont ils ont besoin dans le royaume de Dieu. Dans Marc, un peu plus loin, j'avais encore à cœur de mentionner un autre verset dans le chapitre 6. Juste pour mentionner, on voit qu'un disciple est libéré d'un système religieux. Un disciple n'a rien à faire avec un système religieux, comme le système des pharisiens. Un disciple est libre de ça. Et on voit cette liberté des disciples au début du chapitre 6. Donc, juste pour mettre ensemble tout ça, on a vu donc, dans Matthieu 5, le Seigneur Jésus nous instruit. Il donne l'instruction. Il nous forme. Nous pouvons devenir comme le Maître. Devenir comme celui qui nous enseigne. Ça, c'est la formation. Nous avons vu plus tard aussi que lui est le Maître, celui qui enseigne. Et nous sommes attirés vers lui. Il a dit, « Venez à moi. » Donc, il est le grand centre d'attraction. Et comme tel, il nous enseigne. Et nous avons vu l'importance de la volonté de Dieu. Puis nous avons vu une nouvelle connaissance. C'est ça dans Matthieu 13 qu'il introduit. Il instruit et il élargit nos horizons, pour ainsi dire. Et puis, il y a aussi un changement en nous-mêmes, des caractéristiques des disciples, comme dans le chapitre 18. Et maintenant, on voit quelques leçons, juste dans Marc, qui nous parle de cette nouvelle liberté qu'il nous donne. Et juste un autre aspect aussi, ce qui m'a frappé beaucoup, de voir dans Marc 10, le dernier verset, une nouvelle vue, une nouvelle vision, pour ainsi dire. Chapitre 10, verset 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Et aussitôt, il recouvra la vue, et il, un disciple, est instruit, comme nous avons vu dans Matthieu. Mais un disciple est caractérisé par le fait qu'il suit le Maître. Qu'il suit le Maître. Donc, pourquoi? Parce que le Maître est tout pour lui. C'est ça qu'on voit ici. Ses yeux étaient ouverts. Qu'est-ce qu'il a vu? Le Maître. Il l'a suivi dans le chemin. Ça peut ça peut signifier des souffrances, ça peut signifier des tribulations, des afflictions, mais si le maître est là, on peut le suivre. Et puis, on voit aussi que le Seigneur Jésus nous dirige dans toutes choses. Juste le dernier exemple dans Marc, on voit que le Seigneur Jésus, dans Marc 14, est reconnu par ses disciples comme ayant toute autorité. Et ça, c'est remarquable. Juste pour mentionner, dans Marc 11, on voit qu'ils ont reconnu le Seigneur Jésus comme leur maître. Ils ont cherché cette ânesse et cette âne pour le placer dessus. Là, on voit qu'ils ont reconnu le Seigneur Jésus ayant tous les droits dans le témoignage public. Un disciple reconnaît le maître comme ayant tous les droits. Puis, malheureusement, dans la chrétienté, on ne voit pas que le Seigneur Jésus reçoit tous les droits. Malheureusement pas, d'un sens public. Mais on peut aller encore plus loin. Dans Marc 14, on est dans la maison. Et qu'est-ce que les disciples disent dans le verset 12? Le premier jour des pains sans levain, lorsqu'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent, « Où veux-tu que nous allions préparer ce qu'il faut afin que tu manges la Pâque? Où veux-tu? » Vous voyez, dans Marc 11, c'est une question du témoignage public. Le Seigneur Jésus s'est assis sur cette ânesse, puis les disciples l'ont conduit jusqu'à Jérusalem. Ils ont reconnu les droits du Seigneur, mais ces droits sont rejetés aujourd'hui. Mais ici, c'est une question de ce qui se passe dans la maison. Et les disciples sont prêts à reconnaître ces droits. Et on voit un peu plus loin, dans le verset 14, le maître dit, « Où est mon logis où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Comment cela est précieux pour le Seigneur d'avoir une place où ses droits sont reconnus? Donc, des disciples reconnaissent simplement les droits du Seigneur, là où il est rejeté. À Jérusalem, dans ce système religieux, il n'y avait pas de place pour le Seigneur Jésus. Mais ses disciples et ce maître de la maison avaient préparé une place pour lui. Tout était prêt pour lui. C'est donc une caractéristique pour des disciples aujourd'hui qu'ils préparent la place pour le Seigneur, qu'ils lui donnent tout ce qui lui est dû. Dans l'Évangile selon Luc, nous voyons la révélation, la manifestation de la grâce de Dieu. Et si nous sommes des disciples là, nous sommes des vases qui sont remplis de la grâce de Dieu. Je pourrais montrer beaucoup de versets dans cet évangile, mais je veux me limiter à deux ou trois passages. Mais juste la pensée générale, dans Luc, nous voyons que la grâce de Dieu a été révélée dans une personne, un seul vase, le Fils de l'homme. Maintenant, nous sommes devenus des vases. Le Seigneur nous a rachetés pour nous avoir pour lui-même comme ses disciples. Tournons vers chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera comme son maître. C'est un peu la même leçon qu'on a eue dans Matthieu 10, mais je voulais souligner ici cette expression « tout homme accompli ». Parce que cela nous lie à l'enseignement de l'apôtre Paul. Peut-être vous savez que Luc était toujours dans la compagnie de l'apôtre Paul. Et même juste avant la mort de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, nous voyons que Luc était avec l'apôtre Paul. Et on peut dire, dans les écrits de Luc, nous avons la préparation pour le ministère de Paul. Et on a aussi beaucoup d'illustrations pour le ministère de Paul. Et cette expression « tout homme accompli » me fait penser à cette expression qu'on trouve, je vais juste lire ça, dans Colossiens 1, qui nous donne l'intention du service de Paul ou de son ministère. Je vais juste lire ça dans Colossiens 1, verset 28. Il annonçait Christ, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme parfait en Christ. Voilà, cet homme accompli, c'est la même pensée, tout homme parfait en Christ. Notre position en Christ est parfaite. Le ministère de l'apôtre Paul était dirigé vers ce but, pour avoir ce résultat, des hommes parfaits. Ou en autre mot, comme on l'a ici dans Luc 6, des hommes accomplis. Donc, en autre mot, celui qui est enseigné dans cet enseignement, et je veux maintenant aussi prendre avec ce verset-là tout l'enseignement de l'apôtre Paul, cela produit des hommes accomplis, qui sont comme le maître. Donc, on peut voir ici, on deviendra comme le maître en acceptant l'enseignement de l'apôtre Paul. On a vu l'enseignement du Seigneur Jésus dans Matthieu 10 et 11, c'est son chemin ici-bas. Mais on a aussi besoin de l'enseignement de l'apôtre Paul, qui a été reçu, cet enseignement a été reçu d'un homme dans la gloire, et les deux vont ensemble pour produire ses disciples parfaits, comme on trouve ici. Et dans le verset 47, un autre principe en rapport avec cela, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. » Puis la parabole de l'homme sage et de l'homme qui ne voulait pas écouter est donnée. Donc, c'est maintenant une question de mettre en pratique cet enseignement. Et ça, c'est la grande différence avec les pharisiens, avec les rabbins même. Vous voyez, il y avait un rabbin, c'était peut-être dans le deuxième siècle, donc après Christ, qui disait, c'est pas important, la pratique n'est pas importante, l'étude de la loi, c'est qui compte. Donc, c'est juste le contraire qu'on trouve ici. Le Seigneur n'a pas diminué l'importance de la parole de Dieu, mais il a dit, il faut mettre en pratique cet enseignement. Et les rabbins disaient, l'étude de la loi est importante, c'est ça qui compte. Mais le Seigneur dit ici, il faut connaître la parole de Dieu, mais pourquoi? Pour le mettre en pratique. Ici, il y a quelqu'un qui ne voulait pas se repentir, comme les pharisiens. Il ne peut pas donc avoir ce fondement sur le roc. Il ne voulait pas juger soi-même. Donc, ce sont toutes des leçons qu'on trouve ici, mais c'est pour mettre en pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître pratiquement, qui a bien écouté, qui est bien instruit, mais qui est instruit pour qu'il mette ça en pratique. Ça, c'est le point. Et j'avais deux exemples dans Luc qui soulignent cela. Luc 9, verset 23, et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » Donc, ici, nous voyons tout cela qui est impliqué là-dedans. Renoncer soi-même, ça veut dire dire non à soi-même. Ça veut dire mettre de côté sa propre volonté. Dans le langage du Nouveau Testament, le jugement de soi-même, la mise de côté de la chair, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils prennent sa croix chaque jour. Il y a deux choses. On voit ici, se renoncer, ça veut dire appliquer la mort à nous-mêmes, en rapport avec nos motifs, mais aussi le chemin extérieur. Ils prennent sa croix chaque jour, ils me suivent. Ça veut dire c'est aussi une question publique. Et cela me fait penser à un exemple. Il y avait à Baltimore un homme noir, un nègre, et il avait un petit magasin, il avait besoin de lait, puis la compagnie pourrait lui donner le lait. Mais le chauffeur ne voulait pas livrer le lait parce que le chauffeur était un homme blanc. Donc, il refusait simplement à délivrer le lait là. Puis, il a téléphoné la compagnie. Puis, la compagnie a dit, oui, il faut qu'il vous donne ça. Donc, le lendemain, le chauffeur est venu. Il a donné le lait. Le jour après, quelques semaines, l'homme noir voulait payer. Mais le chauffeur ne voulait pas toucher la main du nègre. Voilà la haine. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme noir a écouté un message, a écouté l'évangile, s'est converti, et toute la haine envers cet homme blanc était ôtée. Après quelques jours, l'homme blanc s'est converti aussi. C'était vraiment un miracle par le même évangéliste. Puis ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés, puis toute la haine était partie. Mais ça veut dire renoncer soi-même, mais aussi ils prennent sa croix, parce que c'était vraiment quelque chose de difficile pour faire ça, pour s'embrasser. Mais ils l'ont fait. Ça, c'est donc publiquement Et c'est ça qu'un disciple fait. Il s'identifie avec Christ publiquement. On peut penser au baptême. C'est aussi un renoncement de soi-même, mais c'est aussi une question publique qu'il prenne sa croix. Pour un juif, ça veut dire quelque chose d'être baptisé. Et pour certains parmi nous aussi, c'était quelque chose d'être baptisé, parce que toute la famille, tout le monde était contre nous. C'est quelque chose. Et c'est ça que ce verset veut dire, qu'il prenne sa croix chaque jour. C'est une identification publique avec le Seigneur Jésus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de leçons qu'un disciple doit apprendre, aussi cette identification publique avec Christ. Dans le même chapitre, nous voyons comment les disciples étaient égoïstes. Ils voulaient beaucoup avoir pour eux-mêmes, ils voulaient avoir le maître pour eux-mêmes, ils voulaient avoir tout pour eux-mêmes. Et maintenant, on voit même un disciple, ou quelqu'un qui voulait être disciple, mais c'était pour lui-même, dans le verset 57. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Mais c'était manque de connaissance de soi-même, manque de connaissance aussi des circonstances du Seigneur, mais pas seulement cela. Probablement, il cherchait ses propres intérêts. Qu'est-ce que le Seigneur a dit, verset 58? Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Donc, pour suivre le Seigneur, il faut réaliser ça. Comme nous avons vu ce matin, ce n'est pas quelque chose qui attire la chair. Et cet homme n'était pas capable avec ses propres forces. Pour être un disciple du Seigneur Jésus, il faut avoir de nouvelles ressources. On ne peut pas être un disciple du Seigneur selon nos propres ressources. C'est impossible. Il faut que le Seigneur nous donne ses ressources. Dans le verset 59, on voit un autre aspect, quelqu'un qui voulait combiner quelque chose. C'est impossible. Le Seigneur lui dit, « Suis-moi. » Il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon père. » Il voulait combiner le système du Seigneur, pour ainsi dire, avec le système de l'homme. Ça ne va pas. Il faut être 100% pour le maître, pour être un disciple. Et puis, dans le verset 60, le Seigneur lui donne cette réponse, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Eux peuvent faire ça eux-mêmes. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. C'est donc 100% pour le maître. Et dans le verset 61, on voit qu'il faut vraiment lui donner tout droit. Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. Il y a un manque de décision dans le cœur de ses disciples. Mais le Seigneur veut que le royaume signifie tout, parce que lui est tout dans le royaume de Dieu. Et dans ce verset 62, il ajoute, il faut avoir un objet devant nous. Si l'homme met sa main à la charrue, il n'a pas le bon objet, il va dévier. Il faut connaître le bon objet. Et pour nous, c'est Christ dans la gloire, Philippiens 3. Là, on est prêt pour le royaume de Dieu, pour être un disciple. Mais il y a encore quelques leçons plus graves dans Luc 14. Dans Luc 14, et nous arrivons maintenant vraiment, je pense, un peu à l'essence de cet enseignement sur les disciples. Parce que j'ai dit, dans Luc, nous voyons la présentation de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu veut avoir une réponse. On peut dire, la réponse est donnée par des disciples. Vous voyez, la grâce de Dieu s'adresse à tout le monde. C'est la première partie de chapitre 14. Et puis, on voit dans cette parabole, du verset 15 jusqu'à 24, comment la grâce de Dieu cherche les gens dans les rues et dans les ruelles de la vie, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Tout était invité. Tout était là. Mais maintenant, le Seigneur veut avoir une réponse. Et vous voyez, je pense qu'un disciple donne cette réponse. Et c'est ça qu'on trouve dans les versets 25 jusqu'à 35, la réponse qu'un disciple peut donner. Et en même temps, c'est une épreuve pour montrer la réalité de notre confession. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient le Seigneur Jésus ou prétendaient le suivre, mais il y avait un manque de réalité. Il y avait ces grandes foules qui allaient avec lui. Vous voyez, toutes ces foules étaient attirées par sa grâce, mais comme j'ai dit, la grâce veut produire une réponse. Et c'est ça qu'on trouve maintenant. Le Seigneur se tourne maintenant. Il se tourne des foules, il se tourne vers les disciples. Il leur dit, si quelqu'un vient à moi. De nouveau, lui est le centre d'attraction. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, et même aussi sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Vous voyez, c'est très radical. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner sa femme ou son mari. Absolument pas. Mais il faut que nous les donnions à Dieu. Il faut que nous les donnions au Seigneur. C'est donc un sacrifice. Souvent, c'est vraiment un sacrifice. Mais c'est ça qu'un disciple fait. Il donne un sacrifice au Seigneur. Il donne tout cela au Seigneur. Tous ses biens, tout cela, il donne au Seigneur. Comme Lévi dans le chapitre 5. Et puis le Seigneur redonne tout ça à ses disciples. Et nous sommes maintenant des économes, des stewards, un autre mot, des administrateurs, vraiment, des administrateurs de ces choses. On peut donc administrer ses enfants, administrer ses biens maintenant pour le maître. Le maître est suprême dans le cœur, dans nos affections. C'est ça qu'on trouve ici. Un disciple aime le maître, il donne tout au maître, pas 10%, mais 100%. Et puis le maître redonne quelque chose, ou selon ses pensées, beaucoup, et puis il maintient ses relations dans le mariage, dans les familles, etc., au travail, mais tout est changé à cause du fait que nous avons tout donné au maître. Ça, c'est la première leçon. Et le Seigneur Jésus dit, si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être mon disciple. Si on veut garder quelque chose pour nous-mêmes, on ne peut pas être un disciple du Seigneur. Un disciple donne tout au Seigneur. Il donne ce sacrifice. C'est donc le premier point. Il sacrifie tout au Maître. Deuxième point, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. C'est ici donc une question de s'identifier avec un Christ rejeté. Comme j'ai dit, il y a cet élément dans un disciple qu'il s'identifie avec un roi rejeté, un maître rejeté. C'est ça qu'on trouve dans le verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. C'est aussi une question d'identification publique avec le maître. Et maintenant, le Seigneur nous donne quelques leçons. Comment être un disciple? Un disciple considère les choses en détail. Dans le verset 28, nous voyons, « Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense? » Il faut donc être exercé pour faire quelque chose. Et bâtir une tour, c'est la défense qu'on va avoir, la protection qu'on va avoir par lui, mais c'est en même temps quelque chose de nos efforts qu'on trouve ici, de notre foi, mais c'est en réponse à lui. C'est une réponse que la grâce donne. Et puis, si nous sommes pris par cette grâce, si nous sommes devenus des disciples du Seigneur, on aime faire quelque chose pour lui. Mais il faut d'abord, comme on a vu, sacrifier tout à lui. Il faut deuxièmement être identifié avec lui publiquement. Et puis après ça, on voit ces deux choses. La défense dans la tour, ça donne beaucoup de travail, faire une tour. Et puis, un disciple a beaucoup à faire, a beaucoup à travailler. Et puis, il y a cet élément de conflit. La guerre, on voit dans la deuxième parabole, dans le verset 31, on voit que nous avons une guerre à faire. Et comme nous avons vu aujourd'hui, ce matin, on voit que l'énergie, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut résister avec 10 000 contre celui qui vient avec 20 000. Mais si le Seigneur est là, si le Seigneur nous donne cette force, on est capable. C'est comme l'exemple que j'ai donné de Luther. Le diable peut rien faire contre Dieu et Luther. Le diable peut rien faire contre Dieu ou contre le maître avec ce disciple, vous voyez. Donc si on est avec 10 000, mais le maître est là, on est capable de faire cette guerre. Ça, c'est le point. Mais ça demande de l'exercice, il faut méditer, il faut considérer tout ça. Ça demande aussi de pas sous-estimer l'ennemi. Souvent, on voit qu'on sous-estime la puissance de l'ennemi. On voit dans Josué que Josué et les Israélites avaient sous-estimé la puissance de l'ennemi dans Haï. Et dans Éphésiens 6, nous voyons que l'apôtre Paul ne sous-estime pas l'ennemi. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Mais il faut voir que si le Seigneur est avec nous, nous pouvons avoir le dessus. Nous sommes la circoncision. C'est ça que Paul dit dans Philippiens 3. Et ayant cette position, nous pouvons avoir le dessus dans cette bataille. Donc, on voit ici que comme on dit en anglais, discipleship, c'est par amour. On a vu en rapport avec l'esclave, c'est une réponse d'amour. Et aussi, comme disciple, on donne cette réponse par amour. On veut suivre le Seigneur Jésus parce qu'on est attiré vers lui pour le suivre. Et cet amour donne cette réponse. Mais c'est l'amour divin ici qui est la source de tout. Et, excuse, nous sommes placés dans ce monde pour représenter le Maître. On est donc formé à son école. On devient comme lui. Quel défi vraiment pour devenir comme le Maître. Ça va avec beaucoup de chutes, mais aussi beaucoup de... avec l'aide du Seigneur, on se prépare chaque fois de nouveau. Et puis, il est là, comme on voit ici, pour nous aider. C'est par la grâce de Dieu. Et un disciple, donc, est un vase qui montre cette grâce de Dieu. Mais dans l'Évangile, selon Jean, j'ai vu qu'il y a encore d'autres leçons, juste trois versets qu'on trouve aussi, en rapport avec le caractère de l'Évangile. Dans Jean, on voit que le Seigneur Jésus a révélé Dieu. Voilà, Dieu est lumière, Dieu est amour, on voit ça. Et on voit à la fin du chapitre 6, que beaucoup de disciples ont abandonné le Seigneur. Ils ont tourné le dos vers le Seigneur. Et puis le Seigneur a demandé à Pierre, est-ce que vous voulez vous en aller aussi? On voit ici que beaucoup de disciples ont abandonné le Seigneur. Et puis, qu'est-ce que Pierre dit? Simon-Pierre, verset 68, lui répondit, « Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On voit ici que c'est une question de la vie. La première partie de Jean parle de la vie. Puis Pierre avait bien compris cela. C'est ici la vie éternelle que le Seigneur Jésus nous donne. Et plus loin, on voit que dans chapitre 8, c'est une question de la lumière. Le Seigneur parle de nouveau de ses disciples. Comme nous avons vu dans Luc 14, le Seigneur, là, il a dit dans le sens négatif, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être mes disciples. Mais ici, c'est positif. Dans Jean, on voit que ce que le Seigneur Jésus dit est très positif. Verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, qu'est-ce qu'un disciple caractérise? Si vous persévérez dans ma parole. Ça, c'est caractéristique pour un disciple. Un disciple, c'est pas quelqu'un qui commence avec beaucoup d'enthousiasme et puis le lendemain, tout est parti. C'est ça qui arrive souvent. Mais un disciple est caractérisé par la persévérance. Si vous persévérez dans ma parole. Ça, c'est ici le point. Ma parole. C'est donc lié à la personne du Seigneur, mais aussi, c'est la parole de Dieu. Il faut persévérer dans sa parole. Et dans ce cas-là, vous êtes vraiment mes disciples. Et on voit ici que la parole était lumière. Tout le mal était exposé par la parole. Il faut réaliser ça. Si on persévère dans sa parole, on ne peut rien avoir à faire avec le mal. C'est donc l'obéissance à la parole qu'on voit ici. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on trouve dans le chapitre 13, verset 34, Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc c'est ici une question d'amour. Et de nouveau, quelque chose de public, pas seulement ce qui se passe dans nos cœurs, mais il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Mais si on voit l'histoire de l'Église, l'histoire des frères, notre propre histoire, combien nous avons manqué, que cet amour n'était pas vu. Il y avait des conflits, il y avait des divisions, mais l'amour n'était pas là. On voit ici, c'est une caractéristique d'un disciple du Seigneur, que des disciples du Seigneur, qu'il y ait l'amour entre vous. Ça, c'est donc aussi un signe public d'un disciple ou des disciples ici. On pourrait parler de ça longuement, mais on n'a pas le temps pour ça. Mais vous pouvez méditer là-dessus, parce que je pense qu'on a beaucoup de leçons pour moi-même, pour chacun de nous, à réaliser. Et dans le chapitre 15, nous voyons le climax, pour ainsi dire, verset 8. « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. » Voilà, c'est ça qu'on trouve ici. « Vous serez mes disciples. » Mais comment si nous produisons du fruit? Ce chapitre parle beaucoup de fruits. Et pour qui est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour les disciples? Non, c'était pour le Père. On voit dans cet évangile que le Seigneur Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu, pour plaire au Père. Et maintenant, il veut avoir des disciples dans ce monde qui ont les mêmes motifs, les mêmes intérêts, et qui produisent, à cause de ça, beaucoup de fruits. Et vous serez mes disciples. C'est donc un signe si nous sommes, que nous avons l'intérêt pour les choses qui concernent Dieu, pas pour nos propres intérêts, mais pour ce qui est pour la gloire du Père. C'est ça qu'on trouve ici. Donc c'est un peu le climax, on peut dire, de tout ce développement. Un disciple, il prend soin des intérêts du Père, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Vous voyez, c'est chaque fois suivre l'exemple du Seigneur Jésus. Juste brièvement, quelques pensées dans Acte 11. Là, on est maintenant dans une autre période. Les passages que nous avons vus, c'était pendant la vie du Seigneur Jésus ici-bas. Et ça parle, comme on le trouve dans Philippiens 2, on voit là l'exemple du Seigneur Jésus pour nous, sa vie ici-bas. Mais le Seigneur Jésus est maintenant dans la gloire. Et comme j'ai dit, dans Éphésiens 4, nous voyons que le Seigneur Jésus nous enseigne. Et il remplit ses disciples, comme on le voit dans les Actes, de sa propre personne. Et dans Acte 11, on voit que dans le verset 26, que là, il y avait des croyants, des gentils, qui ont été sauvés, et puis ils étaient vraiment caractérisés par Christ. Et dans le verset 26, nous lisons à la fin, « Et que ce fut à Antioche, premièrement, que les disciples furent nommés chrétiens. » Donc ici, le mot « chrétien » et « disciple » va ensemble. Un chrétien, c'est quelqu'un où Christ est vu. Pas un chrétien nominal, mais un chrétien, un vrai chrétien. On voit ici que les disciples furent nommés chrétiens. Et c'est une chose publique, comme j'ai dit. Il faut vraiment saisir ça, que être un disciple, c'est pas seulement quelque chose pour la chambre secrète, pour ainsi dire, dans le secret, mais être un disciple, c'est une chose publique. Comme on voit ici, ces disciples-là, les gens les ont vus, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce sont des chrétiens. Ils l'ont vu donc, même les incrédules ont vu quelque chose de Christ en eux. Ça c'est, ici peut-être, c'était juste pour se moquer d'eux, probablement. Dans ce temps-là, ils leur ont donné ce nom pour se moquer d'eux. Mais c'était quand même quelque chose de Christ qu'ils ont vu dans ses disciples. Et on voit donc qu'un disciple est un vase rempli de la grâce de Dieu, mais aussi rempli de Christ lui-même. C'est ça qui est caractéristique. C'est pour ça que nous avons reçu l'Esprit. Et on trouve, et c'est un point que j'aurais à cœur de mentionner, juste et vous pouvez étudier ça, un disciple est lié au royaume de Dieu. On a vu ça déjà dans Matthieu 5, dans Matthieu 13, mais ici dans les Actes, on voit 7 fois le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, Christ est suprême. Et nous avons une place dans le royaume de Dieu. Ça implique, je veux dire, ça donne pas seulement cette pensée que nous suivons le Seigneur Jésus, mais ça donne aussi cette pensée des souffrances. Comme nous avons lu dans 1 Pierre 2 ce matin, ça c'est un disciple dans le royaume de Dieu qui suit l'image, l'exemple du Seigneur Jésus, et puis à cause de ça, des souffrances. Donc, dans le royaume de Dieu, on a des disciples qui sont appelés des chrétiens, on a aussi la vérité de l'assemblée, du corps de Christ, en rapport avec ça, mais dans cette position, il a des souffrances. Donc, le verset, je veux juste mentionner pour pouvoir terminer, le verset que vous pouvez lire là-dessus dans Éphésiens 4, c'est Christ dans la gloire qui nous enseigne. Éphésiens 4, verset 20, nous donne cette pensée que Christ nous enseigne maintenant et que nous apprenons, et c'est le même mot pour disciple, mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. C'est vraiment un beau verset, on pourrait méditer longuement là-dessus, mais un disciple est quelqu'un qui apprend maintenant de Christ comme il est dans la gloire. Donc, Christ dans la gloire nous enseigne également. Et puis, les deux exemples que j'aimerais donner pour terminer, on voit aussi qu'un disciple peut apprendre de l'exemple de l'apôtre Paul. On voit aussi dans l'original la même pensée, le mot « apprendre » est lié à « disciple ». On voit dans 2 Timothée 3, où Paul s'adresse à Timothée, qu'il pouvait apprendre de lui. Et il avait appris de lui. Et dans le verset 14, nous avons cette pensée-là, « Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance, etc., tu connais les saintes lettres, de qui tu les as apprises. » On voit ici que un disciple qui apprend peut apprendre aussi de Paul. J'ai dit, il peut apprendre du Seigneur Jésus dans sa vie ici-bas, comme étant dans la gloire, mais un disciple apprend aussi de l'apôtre Paul. Et d'une autre chose, on voit aussi Épaphras, les Colossiens ont appris d'Épaphras. C'est la même expression. Donc vous voyez, c'est vraiment très beau de voir que le Seigneur présente une personne toujours. Mais même un chrétien peut être un modèle, donc dans ce sens-là, pour instruire d'autres. L'instruction ne dépend pas seulement du Seigneur, mais l'instruction est donnée aussi par d'autres modèles, comme l'apôtre Paul, comme Épaphras. Et puis, pour terminer, j'avais dit, mais je voulais juste mentionner ce verset, vous pouvez le lire à la maison. Dans Philippiens 4, j'ai une référence pour lier de nouveau ça avec l'enseignement dans l'Ancien Testament. Mais dans Philippiens 4, nous voyons que Paul était lui-même un disciple qui était instruit à l'école de Dieu. Dans le verset 9, Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, de nouveau, l'importance de faire ces choses, mais ce que je voulais souligner, c'est ce que vous avez et appris. Appris, c'est le même mot pour être instruit comme disciple. Donc, Paul était un disciple, mais il enseigne d'autres disciples. Et puis, dans ce sens-là, il était vraiment, comme dans l'Ancien Testament, les maskilim, ceux qui enseignent. C'est donc le reste fidèle futur, où le Seigneur donnera des sages qui vont enseigner les autres disciples. Puis, verset 11 de ce chapitre nous indique ça. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Donc, un disciple a appris à être content en soi-même dans les circonstances où il se trouve. Ça, c'est une autre caractéristique. Et cela nous lie donc à cet enseignement de l'Ancien Testament où on trouve les maskilim. Vous pouvez les trouver dans Psaume 32 et d'autres psaumes, 42, les psaumes qui sont appelés instructions. C'est la même pensée. Et dans Daniel 11 et 12, on voit ceux qui étaient instruits ou les sages. Et puis, dans ce sens-là, Paul était un sage, bien instruit dans les voies de Dieu. Il connaissait les voies de Dieu. Il connaissait le conseil de Dieu, bien sûr. Mais il connaissait aussi les voies de Dieu qu'il avait appris à l'école de Dieu. Ça, c'est le point. Il était instruit à l'école de Dieu pour être un disciple. Et comme tel, il peut instruire d'autres disciples. Donc, mais si vous voulez avoir d'autres détails sur les masculines, vous pouvez me les demander parce que on n'a pas le temps pour ça maintenant. Donc la question qui se pose à la fin, simplement, pour moi et vous, est-ce que moi, je suis un disciple? Quelqu'un a dit une fois, on ne trouve pas beaucoup de disciples, mais il n'y a presque pas de limite à ce que Dieu peut faire par un disciple. Donc, en autre mot, on ne trouve pas beaucoup de disciples, mais Dieu, il n'y a presque pas de limite à ce que Dieu peut faire par un disciple. Et si on voit la vie de l'apôtre Paul, on a mentionné quelques détails. Si on pense au fait que Paul a prêché l'évangile et peut-être 5 millions de personnes ont été sauvées, on voit qu'il n'y avait presque pas de limite. C'est ce que Dieu peut faire avec un disciple. Donc c'est vraiment un défi pour nous, mais c'est une question d'amour, attachement au Seigneur, puis une identification publique avec le Seigneur, reconnaître le Maître dans les détails de notre vie, et une question d'obéissance à la parole, comme nous avons vu, et puis chercher la gloire de Dieu. Souvent, on est très égoïste, on cherche ses propres intérêts, même dans les choses spirituelles, au lieu des intérêts de Dieu. Mais comme nous avons vu dans Jean 15, un disciple cherche d'abord la gloire de Dieu, ce qui est pour la gloire du Père. Donc le Seigneur nous aide pour mettre en pratique ces quelques leçons. Sans doute, on pourrait voir beaucoup d'autres détails sur ce sujet, mais avec l'aide de l'Esprit, on peut méditer sur ces passages et bien d'autres passages. Cela peut nous aider pour être un disciple.